sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur l'honoraire, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, je suis très honoré, monsieur le président, très honoré du privilège que votre assemblée m'a accordé, très honoré et ému parce que je ne me sentais pas du tout prédisposé à participer ou à être à l'écoute, je le répète, d'une assemblée aussi savante. Autrefois, ce titre de correspondant désignait les personnes respectables, aimables, qui se dévouaient pour assurer les sorties des petits pensionnaires, enfin des pensionnaires des collèges. Voilà. Et aujourd'hui, renversement de situation, voilà, je fais partie de ces personnes qui deviennent âgées et qui, à leur tour, enfin, ce titre de correspondant me désignera alors à ce titre, qui, à leur tour, vont bénéficier des conseils venus du collège le plus prestigieux, votre académie. Et c'est pour cela que je vous remercie. Le titre de cette communication est « La France et les Nations Unies, histoire critique ». Histoire nécessairement très sommaire, mais pourquoi critique? Parce qu'il y a distance entre la légende dorée et la réalité. La légende dorée, elle est due à la présente fortune d'un mot à la mode, ample, majestueux, qui impose pour l'articuler de reprendre son souffle, « multilatéralisme ». Il n'est pas aujourd'hui de discours, article qui n'exalte notre pays comme champion du multilatéralisme. Et celui-ci s'incarnant par excellence dans une assemblée de 193 États, on comprend que l'ONU soit le théâtre désigné où doit s'exprimer notre diplomatie. France, Nations Unies, couple logique, couple évident. La réalité est celle d'un pays qui ne fut convié que tardivement à fonder l'ONU, qui fut porté par son intérêt national à s'éloigner longuement du courant majoritaire, qui devint un partenaire actif de l'organisation dans ses entreprises économiques et politiques, mais qui resta lucide et qui pourrait être tenté de nos jours de s'affranchir des contraintes de l'ONU et de s'abandonner aux facilités hors les murs de New York ou de Genève d'un multilatéralisme plus diffus, autogéré, aux résonances médiatiques sympathiques, aux effets concrets plus incertains. L'ONU reste-t-elle l'avenir? Voici donc brièvement les étapes et jalons de ces rencontres, dissonances, interrogations. La France, invitée tardif à la naissance de l'ONU, mais invitée constructif, 1945-1950. N'évoquons pas les bons apôtres qui font de la France à l'ère des Lumières la mère du multilatéralisme. Le mot ne figure ni dans l'encyclopédie, ni dans le dictionnaire du XVIIIe siècle de l'Académie française, ni dans le lettré. Chateaubriand, Tocqueville, le général de Gaulle l'ignorent. Ne sanctifions pas le concert européen dont les aimables concertistes firent se succéder Sébastopol, Solferino, Salois, Sedan. Léon Bourgeois connut Wilson, mais celui-ci baptisa son projet « Ligue des Nations » et non « Société ». Quant à Clémenceau, gardant à l'esprit ce qu'en disait Keynes, il pensait de la France ce que Périclès pensait d'Athènes. Les diplomates de Versailles n'étaient pas de doux rêveurs. Dans leurs pattes, ils parlent, reparlent de la guerre. Mais pour éviter celle-ci, ils croient aux moyens diplomatiques. Et humainement, malheureusement, ils croient à la volonté partagée des rescapés de 14-18 et donc à l'unanimité. Au lendemain du coup de force de Hitler en Rhénanie en 1936, on sut à Londres, foyer de l'apaisement, qu'il se trompait. Relisant les documents diplomatiques publiés en 1939-1940, peu de mention de la SDN, sauf au moment de l'expulsion de l'URSS après son agression contre la Finlande. On aime bien Albert Cohen et son héros multilatéral, Solal, mais où sont les réflexions de diplomates qui ont bien connu la SDN, Jean Daridon, Jean Chauvel, ou de ce personnage si discret, omniprésent pourtant dans les couloirs de Genève ou du Quai d'Orsay, André Ganem? Se souvient-on de ce que Vichy, adressa à la SDN en avril 1941 son préavis de retrait. C'est outre-Atlantique que le multilatéralisme fut relevé. 1er janvier 1942, déclaration des Nations Unies. 26 pays. La France du général de Gaulle n'est pas invitée. De l'ONU, début 1944, Américains et Anglais ont une idée claire, musclée, axée sur l'objectif de rendre la sécurité collective implacable en prévoyant un arsenal de mesures dissuasives et répressives. On est loin de la recherche haletante du compromis privilégié par Versailles. Le grand journaliste Walter Lippmann le décrit. Les Nations Unies seront le contraire de ce que souhaitait Wilson. Celui-ci voulait briser le passé, dissoudre l'alliance. L'ONU devra rester ce que les guerriers souhaitent, une alliance de guerriers. De Gaulle, c'est évident, veut en être. Mais pour l'heure, en été 1944, les travaux de Dumbarton Oates se passent entre Américains, Anglais, Russes, Chinois, sans la France. Notre représentant à Washington, Henri Hopneau, est éconduit par le département d'État, réduit pour informer Paris à l'envoi de quelques coupures de presse. Le général de Gaulle va-t-il tempêter, exiger pour la France un siège permanent au Conseil de sécurité ? Rien de ce type ne filtre des archives. Le 9 octobre 1944, la commission de Dumbarton Oates publie le projet de constitution de la future organisation. Conseil de sécurité, 4 sièges permanents déjà attribués, le 5e et dernier prévu pour la France, le moment venu. Quand viendra ce moment ? Il ne viendra pas à Moscou en décembre 1944, où rien n'est dit de public. À Paris, le 22 décembre, Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, installe la commission française chargée d'étudier le projet de charte. Président Joseph-Paul Boncourt, quelques hommes politiques, Pierre Cotte, Vincent Auriol, Chantier de Ribes, plusieurs juristes, René Cassin, Georges Sel, Jules Badevant, Paul Bastide, un historien renouveau, de rares diplomates, Foot du Parc, et bien entendu, toujours là, toujours muet d'ailleurs, André Ganem. Bidault prononce un long discours, emphatique, vide d'instruction. Tout se passe comme si les Français avaient reçu des assurances confidentielles sur notre statut ou voulaient le faire croire. La commission travaille plusieurs semaines, très sérieusement. Pierre Cotte et Georges Sel rédigent des propos, des papiers rappelant sans phare leurs idées, toutes favorables à la supranationalité. La souveraineté nationale, professe Pierre Cotte, mal absolu de notre époque. On imagine que tout ceci est aux antipodes des convictions du général, qui n'en dit rien, écrit peu, hors une courte note, hostile à l'admission des neutres. Il sait que le réalisme prévaudra, y compris à propos du droit de veto réclamé par les Russes pour les membres permanents. Au lendemain d'Yalta, la France est enfin conviée à se joindre aux 4 autres grands pour inviter à la conférence de San Francisco les nations victorieuses. C'est le signe que la France est élevée au rang de membre permanent. On impute ce geste amical à Churchill, qui avait pas mal à se faire pardonner. La France sera membre permanent, mais elle refuse de se joindre aux parties invitantes. Elle se veut grande puissance, tout comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres. Elle sera le membre permanent ouvert aux doléances des petits, des sans grade. Vieille attitude que l'on retrouvera plus tard dans le comportement de la France au sein du P5. Et le général prolonge le paradoxe. Fier d'être conseil, il n'en instruit pas moins Georges Bidault de soutenir tout ce qui peut renforcer les pouvoirs de l'Assemblée, parce que l'influence diplomatique française s'exerce plus facilement sur les États de moyenne ou faible importance. Fin de citation. À San Francisco, la délégation française est heureuse, en témoigne Georges Gorce dans son livre « Je n'irai pas à mon enterrement ». Elle est discrète, mais hors l'affaire des neutres sur laquelle elle est battue, elle contribue par ses amendements à élargir les pouvoirs de l'Assemblée générale, admise à débattre de paix et de sécurité, à préciser le rôle du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Surtout, elle se joint à ceux qui, comblant une lacune du projet de charte, consacrent dans un nouvel article 51 le droit naturel de légitime défense, défense individuelle ou collective, ce qui autorise le recours aux pactes et alliances, prôné tant par John Foster Dulles, alors diplomate républicain mais membre de la délégation des États-Unis à San Francisco, que par les signataires français du pacte de décembre 1944 avec l'URSS. Le résultat final, mieux charpenté que celui de Versailles, mais sans lien avec un traité de paix, satisfait le général. Dès juin 1945, à l'issue d'une douloureuse crise avec Londres à propos du Levant Il avait indiqué à la presse que cette affaire aurait mérité d'être portée devant le Conseil de sécurité si celui-ci avait été en fonction. On est très loin des réputations de machin faites au Conseil de sécurité par le général des années plus tard. À l'automne 1945, l'ONU est installée. 51 États, majoritairement d'Occident et des trois Amériques. Peu d'Européens, peu d'Asiatiques, peu d'Arabes, peu d'Africains. L'ensemble est déséquilibré en faveur de Washington, qui, libéré de tout lien colonial, soutiendra les mouvements anti-impérialistes soulevés par la minorité vite grandissante du tiers-monde. Dès 1946, ressurgissent de toutes parts idéologies et pulsions nationales concurrentes. L'URSS pousse ses pions en Europe comme en Iran, un rideau de fer s'abat. Mais l'image d'une ONU aussitôt paralysée est fausse. Ses membres ont travaillé à parfaire l'institution, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Ils sont intervenus pour tenter de régler les premiers conflits. Redressée, la France, dans les deux cas, a été active. D'abord, pour compléter la charte, par l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Universelle, selon le vœu du professeur Cassin, qui craignait qu'un texte simplement international ne s'imposât pas à tous. Plus d'un demi-siècle plus tard, forcé de constater que se sont succédées d'autres déclarations des droits de l'homme, régionales, confessionnelles, affaiblissant d'autant l'autorité du texte de 1948. Actif fut également la contribution française aux travaux du Conseil économique et social, où nous représentaient alors Georges Boris et Pierre Mendès-France, avocats face au libéralisme américain du thème de la planification. Dans le domaine, j'ai alors capital du désarmement, Jules Mock développa un plan ambitieux plaçant sous contrôle tout le site atomique. Projet repoussé, mais qui occupa les esprits. Notre premier ambassadeur, Alexandre Parodi, avertit son successeur Jean Chauvel en 1949, l'important, c'est le nucléaire. Ce n'était pas tout à fait exact. Malgré le rideau de fer, les Nations Unies partageaient encore sur certains sujets la même analyse. Dès le début de 1946, alors que le général avait quitté le pouvoir, la délégation française proposait au Conseil de débattre de la situation en Espagne, demande contraire à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte, qui prohibe l'ingérence dans les affaires intérieures. Mais interdiction facilement retournée par le raisonnement selon lequel il est légitime de se préoccuper d'une situation intérieure si celle-ci menace la paix ou la sécurité internationale. En ce sens, la France fut pionnière dans un exercice qui rythma ensuite tous les débats sur la décolonisation et qui rend d'ailleurs parfaitement vain les discussions interminables entre partisans acharnés du droit d'ingérence et hostiles. En fait, l'ingérence, on en a fait dès le début en utilisant cette idée que si une situation est vraiment grave dans un pays, elle est inquiétante pour les autres. On n'a pas du tout besoin de parler de droit d'ingérence et de cultiver cette fausse valeur. Le Conseil ne connut ni de la partition indienne, or à propos du Cachemire, ni des débuts de la question indochinoise, mais il se saisit aussitôt des problèmes du Proche-Orient, assumant la création décidée par l'Assemblée de l'État d'Israël, multipliant les résolutions à propos du conflit qui se déclenchait aussitôt, des 48, mais parvenant à imposer des armistices. Au Conseil de tutelle, l'ambassadeur français Garot mena des mois durant une délicate négociation, malheureusement oubliée aujourd'hui, pour tenter de parvenir à un accord sur le statut de Jérusalem. Mais à l'égal des autres pays occidentaux, la France attendait les moyens de sa propre sécurité moins de la charte que des accords régionaux de défense, Dunkerque, Bruxelles, Washington. À New York, où il représentait la France depuis 1949, Jean Chauvel jugeait son travail peu harassant. Il concluait « Ce vaste corps new-yorkais ne conservait à mes yeux, au lieu de ses vertus supposées, qu'une importante nuisance value. » Réflexion bien sévère, alors que Jean Chauvel participait en juin 1950 au lancement par le Conseil, profitant de l'absence maladroite de Moscou, de la première action de guerre des Nations Unies contre la Corée du Nord. Chauvel fut frappé par la manière parfaitement unilatérale avec laquelle les Américains menèrent campagne. Mais il s'alarma plus encore de la volonté des États-Unis, inquiets du retour de l'URSS à son siège, de transférer une part des pouvoirs du Conseil à l'Assemblée générale. Résolution unie pour la paix de novembre 1950. Jean Chauvel avait compris le dynamisme de la démographie et du principe d'autodétermination des peuples et perçu les dangers pour la France, encore puissance coloniale, de cette mutation accélérée de l'Assemblée. Notre intérêt national mis en cause. La majorité des Nations Unies s'en prend à notre politique de décolonisation 1950-1965. Successeur de Jean Chauvel, Henri Houpnot, flanqué de son excellent conseiller de presse Romain Gary, vite auteur d'un petit livre acide sur l'ONU, reçut de plein fouet l'offensive du tiers-monde soutenue par le bloc soviétique. La stratégie est simple, enflammer l'opinion internationale en saisissant le Conseil et l'Assemblée générale, mais privilégier l'Assemblée, où la France, privée dans cette enceinte du droit de veto, s'épuisera à empêcher que se forme contre elle une majorité des deux tiers. Tâche accablante, mois après mois, sur près de 15 ans. Nous mesurerons le poids des alliances, la sincérité des promesses, les degrés d'hypocrisie. Seul un pays ne nous aura jamais manqué, le Royaume-Uni. Henri Houpnot s'efforce de sortir la France de cette éreintante querelle. Lorsqu'en pleine offensive du macartisme, sous le bienveillant et si gentil général Eisenhower, il faut même se le rappeler, l'indépendance des fonctionnaires américains du secrétariat est menacée, il s'en prend à Trygve, faible devant Washington. Il pousse au secrétaire général un Suédois, poète à ses heures, à qui il fait connaître l'œuvre de Saint John Perse. Dalia Marcheud est élue, il n'est pas sûr que cette connivence aide à plus tard au rapport avec le général de Gaulle. Peu avant son départ en 1955, Henri Houpnot obtient enfin une pause. La visite à l'ONU en novembre 1954 du président du Conseil français, Pierre Mendès-France. Celui-ci présente à l'Assemblée son bilan. Il est bien reçu. À l'invite de Jules Moc, l'orateur était tenté d'appeler à l'arrêt des essais nucléaires. Son conseiller Jean-Marie Soutou, heureusement, l'en dissuade. L'acmé de nos difficultés fut évidemment en 1956 la crise de Suez. On crut d'abord à New York, en septembre-octobre, à la possibilité d'un règlement. Souveraineté égyptienne d'un côté, indemnisation et liberté de passage de l'autre. Puis se dévoila la manœuvre militaire. Stupeur et tremblement. Notre ambassadeur à New York perd l'usage de la parole. Mise en mouvement, comme Chauvel l'avait prévu, par une résolution de procédure du Conseil à l'Assemblée, non passible du veto, l'Assemblée impose sa solution. Dégagement des Français et des Anglais, auquel l'ONU substitue pour la première fois une force d'interposition, les casques bleus. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, moins de 2 ans plus tard, ne modifia pas sur le champ nos rapports avec l'ONU. Et le procès qui nous est fait à propos de l'Algérie se compliqua de l'hostilité qu'encourt notre projet de campagne d'essais nucléaires au Sahara. Le chef d'État français n'entend céder sur aucun dossier. Il n'accordera les indépendances, mais de son fait, il rejette toute pression de l'ONU, assemblée comme secrétaire général. Quand Dalia Marcheud prend sur lui en juillet 1961 de s'interposer à propos de Bizerte, entre Paris et Tunis, il est sèchement refusé. C'est l'époque où le général qualifie l'ONU de machin, où Armand Bérard, ambassadeur, titre un premier volume de ses mémoires, ONU, non. Non d'ailleurs que le général ignore ou méprise ce qui se dit à New York. Il tient compte. En septembre 1959, il a prononcé son discours sur l'autodétermination. « Ainsi ne serez-vous pas son biscuit », confie-t-il à Alain Perfit qui part pour l'Assemblée générale. L'indépendance de l'Algérie met fin à la guérilla. La disparition de Dalia Marcheud met tristement fin à une relation que certains conseillers du secrétaire général n'avaient pas cherché à apaiser. Hutton convient au président français qu'il reçoit aimablement. Le cours de la diplomatie française, son volet asiatique notamment, emporte à New York l'adhésion. 1967 et la guerre israélo-arabe achève de renouer les fils. Les Arabes saluent la désapprobation marquée par le général du recours préventif à la force par Israël. La France n'est pas la rédactrice de la résolution 242 qui pose le principe du règlement, la paix contre la terre. Mais notre insistance a souligné que le texte français, retrait des territoires occupés, est plus précis que la version anglaise, retrait de territoires occupés, satisfait les Arabes. Pour mettre en œuvre la résolution et dans le droit fil de ce que le général avait évoqué en juin 1945 pour le Levant, la France convoque à New York une concertation des membres permanents. Celle-ci, ouverte dans la résidence d'Armand Bérard, débute bien, le russe Malik faisant preuve de souplesse. Arrêt brutal quand Washington décide d'en revenir à sa méthode bilatérale exclusive, qui ne voit que ce comportement alors démocrate est toujours d'actualité. En décembre 1971, c'est à l'ambassadeur français Jacques Kosciusko-Morizet que revient le soin d'arranger avec les membres du Conseil l'élection du secrétaire général, l'élection du nouveau secrétaire général Kurt Waldheim, ainsi courtois francophone. Mais à l'époque, un tiers des orateurs à l'Assemblée générale s'exprimait en français. Le Bulgare président français, l'Albanais invective la terre entière, Chine expectée en français, Michel Debré est ravi. Le général meurt. L'ONU décide une séance d'hommage. Tous, ou presque, les délégués se succèdent à la tribune, plus d'une centaine. Dernier orateur, Jacques Kosciusko Morizet, tourne et retourne les lignes qu'il prépare. À l'ultime instant, on lui glisse le texte du testament du général. Appel au silence, à la solitude. L'ambassadeur s'en tient à la lecture de ses dernières volontés, rien d'autre. Debout, derrière la délégation française, celle d'Algérie refoule son émotion. C'était voici 50 ans. Et la France, partenaire loyal en économie comme en politique, mais lucide. Ainsi, la France, au tournant du dernier quart de siècle, se tourne de nouveau, sans hâte, avec aisance, vers le monde multilatéral tel qu'organisé par l'ONU. Le président Pompidou, en visite aux États-Unis, est reçu familièrement à l'ONU. Armand Bérard peut intituler le second tome de ses mémoires « L'ONU, oui ». En 1973, l'armée égyptienne franchit le canal. Le Conseil de sécurité est aussitôt bloqué, rusé américain alternant selon le sort des armes pour empêcher un cessez-le-feu. Kissinger, à Washington, prend l'affaire en main. Il impose sa solution, engagement à mettre en œuvre la résolution 242, mais sous auspice approprié, entendez, russe et américain. Vetsé, Michel Jobert part en tournée au Moyen-Orient. Il n'apprécie pas que, face aux producteurs de pétrole, les États-Unis cherchent à dresser le front des consommateurs, bloc contre bloc, extérieur à l'ONU. Mais c'est aussi le signe que les tensions se déplacent du terrain de la politique vers celui de l'économie, et non plus entre l'Est et l'Ouest, mais du Nord au Sud. L'économie, donc, devient le champ d'activité multilatérale que le tiers-monde exclut du politique investi. Mais c'est un terrain où la France du nouveau président Valéry Giscard d'Estaing est toute prête à répondre. Devenue majoritaire dans une assemblée qui n'a plus rien à voir avec celle de 1946, les pays en développement ne peuvent plus peser sur des sujets tels le contrôle des armements totalement aux mains des Russes et des Américains. À la place, ils ambitionnent de bâtir un nouvel ordre économique international. À partir d'une entreprise visant à préserver l'utilisation pacifique des fonds marins, lancée en 1967 autour du concept alors original de bien commun de l'humanité, une non-négociation refonde le droit de la mer. Notre directeur des affaires juridiques, Guy de la Charrière, joue un rôle majeur. Le président français s'emploie à relever les défis du tiers-monde. Il met plusieurs fers au feu. D'un côté, dès novembre 1975, il réunit à Rambouillet, dans un format à l'opposé des grandes messes onusiennes, les dirigeants des principaux pays industrialisés, ébauche du futur G7. Parallèlement, pour dépasser le cadre d'une confrontation entre producteurs et consommateurs de pétrole, il lance le projet d'un dialogue nord-sud ouvert à plusieurs pays clés, producteurs d'énergie, consommateurs, pays en voie de développement. L'objectif est d'obtenir des accords de raison sur le prix d'énergie et des flux d'aide diversifiés pour le tiers-monde. L'entreprise est multilatérale, d'envergure ramassée, une trentaine de participants. Elle n'est pas onusienne, mais le président français veille à garder le lien avec les Nations Unies. Il leur envoie pour explication Henri Froment-Meurice, directeur au Quai des affaires économiques, et confie la présidence à Paris des travaux préparatoires à Louis Le Guiringot, notre ambassadeur à New York, futur ministre. L'exercice n'aboutira pas du fait des manœuvres et surenchères algériennes. Pragmatique, le président français met fin à l'entreprise et écarte, réflexe rare, toute idée de relance. Mais la France, fair play, participe de bon cœur au débat de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et contribue, Jean-François Poncet se rendant à la conférence de Nairobi en 1976, à l'établissement d'un fonds de stabilisation du cours des matières premières. Ce succès, exemple rare d'une certaine forme de régulation économique, mérite d'être rappelé à l'heure où la CNUSED est tombée dans l'oubli, où ont disparu, avec le souvenir du dialogue Nord-Sud, des institutions comme le Conseil mondial de l'alimentation. Le libéralisme économique, dans sa marche triomphante, accélérée sous Reagan et Bush, a fait le ménage. Survit ce qui a été créé sur le plan multilatéral, mais en dehors de l'ONU, par la France, G7, puis en 2008, G20. Fin donc vers les années 1980 de la phase d'éclat économique de l'ONU et retour aux politiques. Le président Giscard d'Estaing n'avait pas délaissé ce chapitre multilatéral. Loyal à l'ONU, il participe à New York en 1978 à une session de l'Assemblée consacrée au désarmement. Il y plaide pour un contrôle tant des stocks nucléaires que des vecteurs, des missiles, préfigurant ce qui est en débat aujourd'hui à propos de l'Iran. Il plaide aussi pour une refonte de la commission, du comité du désarmement, avec suppression de la coprésidence russo-américaine. Il innove enfin dans le domaine des opérations de maintien de la paix, en dépêchant pour la première fois de la part d'un membre permanent un fort contingent français dans la force d'interposition au Liban. La finule, on y est toujours. Ce tribut payé au multilatéralisme politique ne prévient pas le président de rompre en cas de franche atteinte à notre intérêt national. La France avait approuvé l'accès à l'indépendance de l'archipel des Comores. Elle se crut obligée de respecter le vote dissident de l'île de Mayotte en faveur de son maintien dans notre République. Fureur à l'ONU, où le Conseil de sécurité met aux voix la condamnation et une ferme, féroce condamnation de notre pays. Veto français, l'un des très rares vétos de fond, en février 1976. Les retrouvailles politiques de la France et de l'ONU se confirmèrent sous le président Mitterrand, mais plus particulièrement lors de son second mandat, 1988-1995, à la suite d'événements exceptionnels. Au premier temps de sa prise de pouvoir, le président français, voulant marquer la nouveauté de ses vues, mena une politique assez indifférente au cours des choses à New York. Alors même qu'il n'entendait pas faire du G7 comme il le répétait un directoire, il s'exprimait parfois en anglais et il évoquait le directory et les gens ne comprenaient pas très bien ce qu'un annuaire téléphonique venait faire dans ses débats. Il accueillait celui-ci à Versailles avec un faste inusité. Dans la foulée, il s'implique de près dans le traitement des crises au Proche-Orient sans passer par les canaux de l'ONU. Au lendemain des massacres de Sabra et Shatila, d'accord avec Washington et Londres, il déploie à Beyrouth, mais avec l'accord évidemment d'Amin Gemayel, une force d'interposition multinationale, mais sans rapport avec l'ONU. C'est tout aussi singulièrement que la France, à deux reprises, protège l'évacuation de Palestiniens pris sous le feu de l'hiver canon. À l'écart des résolutions plaintives et répétitives du Conseil de sécurité, la France s'est endurant face à ce que son ministre qualifiait de « déferlant de shit », poursuivit un soutien politique et matériel à Saddam Hussein. Étrangère à l'ONU était enfin la compréhension française manifestée envers des mouvements d'opposition à plusieurs régimes d'Amérique centrale. Mais lorsque l'Argentine s'attaquait aux Malouines, François Mitterrand, tout comme de Gaulle vis-à-vis de Kennedy en octobre 1962, assura aussitôt Mme Thatcher de son soutien. Lors du second septennat, 1988-1995, l'engagement français pour les Nations Unies s'accentuera. À la suite de trois mouvements, la chute de l'Empire soviétique qui transforma les Russes d'interlocuteurs difficiles en partenaires, l'élection au secrétariat général d'un ancien ministre égyptien qui dut son succès à notre appui, et enfin, sur un registre plus dramatique, à l'éruption violente de crises meurtrières dans les Balkans et en Afrique. L'effondrement du système soviétique ne résulta pas de la victoire d'idées propagées par les Nations Unies, mais plutôt de l'effet dissolvant qu'eurent sur l'URSS les principes de la conférence d'Helsinki et le rythme épuisant qu'imposa la course aux armements déclenchée par Reagan. La chute du mur de Berlin relança les mécanismes traditionnels de la diplomatie et c'est tout à fait en dehors de l'ONU qu'Occidentaux et Russes négocièrent la réunification de l'Allemagne. Mais c'est à New York qu'allaient être débattues les crises et guerres qui, subitement, aussitôt disparut l'empoignade russo-américaine, déchirèrent le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Le président Bush, tout comme Truman en 1950, avait intelligemment réagi à l'agression irakienne contre le Koweït en saisissant l'ONU. Comme au temps de Chauvel, les Américains gardèrent la main. Ils firent mine de relancer le processus de paix israélo-palestinien en convoquant à Madrid une conférence où Européens et ONU se virent offrir un strapontin. Mais en janvier 1992, les chefs d'État, rassemblés par la présidence britannique du Conseil de sécurité, affirmèrent vouloir redonner souffle aux Nations Unies et adoubèrent le nouveau secrétaire général Boutros Boutros-Ghali. Celui-ci était l'élève de nos écoles. Il gardait de cette éducation un souci jaloux de son indépendance. Aussi, un certain sens de la hiérarchie qui l'amena à mieux rechercher le contact des chefs d'État que des ambassadeurs. Méfiant à l'égard des entourages, il était un travailleur acharné, solitaire, capable de réfléchir seul, ce qu'il fit en lançant les thèmes de plusieurs grandes conférences et en témoignant de son intérêt pour la création d'une justice pénale internationale. Négociateur silencieux avec les Français de règlements délicats entre riverains de la mer Rouge, il comptait assez naturellement sur nous et nos forces pour étayer ce qu'allait devenir le bras armé de l'ONU, les opérations de maintien de la paix. Ainsi en fut-il pour les crises de la Yougoslavie et du Rwanda. En Yougoslavie, le choix était simple, redessiner les frontières et déplacer les populations ou garder les tracés anciens, mais octroyer aux minorités les meilleures des garanties. Terrifiés à l'idée de donner des idées à l'Allemagne, les Européens optèrent pour la stabilité des frontières et, pour la préserver, se tournèrent vers l'ONU, laquelle, à son tour, fit appel à la France pour fournir le gros des troupes avec la mission impossible, non pas de combattre un agresseur, mais de s'interposer impartialement. Le président Mitterrand accueillait ces développements avec une triste résignation. Certains lui disaient que c'était le prix à payer, l'ultime mort du traité de Versailles, pour obtenir de l'Allemagne, avec la fin du Mark, un pas décisif vers l'Union européenne. Vint le moment où les Américains, entrés tard en lice, reprirent sans scrupule l'épure de solutions agréées entre Paris et Berlin, bombardèrent les Serbes et imposèrent la paix de Dayton. Au Rwanda, les preuves de génocide s'accumulaient. Boutros Ghali, tout comme les dirigeants français, dénonçaient. Nos partenaires du Conseil restaient inertes. La France se résolut à intervenir sous un mandat de l'ONU que le secrétaire général aida à arracher. Quand Boutros Ghali parvint à faire accepter par Saddam Hussein un programme d'aide humanitaire en échange d'une reprise contrôlée des ventes de pétrole, Washington, alors démocrate, animé d'un autre projet, celui de la démocratisation du Moyen-Orient au besoin par la force, jugea que le secrétaire général en avait trop fait. Son sort fut scellé. Il obtint 14 voix sur 15 lors du vote sur sa réélection. Mais par leur veto, les Américains faisaient comprendre que le maintien de leur appui à l'ONU était lié au départ du secrétaire général. Celui-ci s'inclina. Son successeur, Kofi Annan, crut bon de récompenser la France de n'avoir pas déclenché une crise mortifère en nous offrant le poste le plus stratégique du secrétariat à la direction des opérations de maintien de la paix. Nous n'en demandions pas tant, nous savions que Kofi Annan saurait lui aussi manifester son indépendance. Anxieux d'en finir avec les troupes balkaniques qui perturbaient la construction européenne, le président Chirac laissa les démocrates américains entraîner l'OTAN en 1999 sans mandat de l'ONU à frapper la Serbie, accusée de renouveler ses exactions contre la province du Kosovo. Cette campagne cassa l'unanimité qui s'était développée aux Nations Unies. Russes, Chinois, Kofi Annan lui-même boudèrent. Lorsque 4 ans plus tard, le président américain, cette fois républicain, déclencha la guerre contre l'Irak, toujours sans mandat de l'ONU, Jacques Chirac et son ministre se régimbèrent de la manière que l'on sait. Retrouvailles de la France avec la majorité des Nations Unies, avec le secrétaire général. Le président Chirac s'en tint à cette attitude. Il prit grand soin de n'intervenir en Afrique qu'avec l'accord de l'ONU. Opération classique de maintien de la paix organisée par le Conseil de sécurité et le secrétariat, ou plus souvent, déploiement d'une force approuvée par l'ONU, articulée avec une autre force onusienne, régionale, mais laissée sur le terrain au commandement d'officiers français sous béret national. Nos militaires ne sont pas mécontents de retrouver un espace de liberté et de responsabilité. Le président Sarkozy et le président Hollande conduisirent dans le même esprit leur relation avec l'ONU. Le ton n'était plus à redonner vie aux instances économiques de l'organisation, les COSOC, de Pierre Mendès France, la CNUSED, de Stéphane Hessel. Le ton est celui des vastes conférences internationales, telles celles sur le climat, où la part prise par la présidence du pays hôte est prédominante. Mais l'attention redoublée portée aux questions humanitaires, renvoyant au volet politique toujours vivant de l'ONU, le président Sarkozy crut possible de tirer parti d'un principe nouveau endossé par l'Assemblée générale en 2005, celui de la responsabilité de protéger. C'était le système imaginé pour approcher souverainistes hostiles à l'ingérence et partisans de celle-ci. On plaida que la raison d'être de la souveraineté tient dans la protection qu'un État doit, en son nom, assurer à sa population. Si l'État manque à ce devoir de protection, il appartient à l'ONU de rappeler le délinquant à ses obligations de souveraineté et donc de préservation des rebelles en intervenant elle-même au bénéfice des populations. Mais l'intervention doit être limitée à des cas extrêmes de violation des droits de l'homme et nécessite en tout état de cause une décision du Conseil. Le geste humain mais unilatéral qui viole les frontières reste hors la loi. Le Conseil fit l'expérience de ce principe en 2011 pour empêcher les forces armées libyennes de se porter sur Benghazi. Benghazi fut sauvé, mais l'aviation alliée prolongea ses raids de telle sorte que le dictateur libyen fut tué. Détournement d'objectifs, la mer russe et chinoise qui jurèrent qu'on n'y reprendrait plus. Et depuis lors, bientôt 8 ans, le principe de la responsabilité de protéger est en sommeil. Le chaos suscité en Libye se répandit au Sahel. Le président Hollande fit face, toujours avec l'aide de l'aval de l'ONU, déploya des forces. France, soutien loyal mais lucide de ce qu'est le maintien de la paix, tâche écrasante de l'ONU. Entendons-nous, ce maintien de la paix n'est pas un vaste débat sur les équilibres du monde, les États-Unis, la Chine, le conflit des civilisations, le piège de Thucydide, etc. C'est chaque jour, dans la salle étroite et sans public des consultations privées du Conseil, le traitement des problèmes quotidiens nés d'obscures mais périlleuses manœuvres dans les sables du Sahel ou les forêts congolais. Mais l'ONU, c'est aujourd'hui comme hier, beaucoup plus que le maintien de la paix. D'autres objectifs économiques, sociaux, culturels étaient assignés par la Charte. Ceux-ci sont-ils mieux servis par des formes de coopération multilatérale, par une diplomatie collégiale, mais extérieure à l'ONU? Le multilatéralisme hors de New York ou Genève, plus ou mieux que l'ONU? L'entrain est en effet vif aujourd'hui à psalmodier les vertus d'un multilatéralisme qui semble se pratiquer un peu partout, mais hors des murs de New York ou Genève. D'où la pertinence en conclusion d'une brève interrogation d'une part sur les raisons de cette évolution, d'autre part sur l'intérêt de celle-ci, à l'aune de 2 critères d'efficacité de l'action diplomatique, la transparence, l'autorité. Les raisons de ce penchant croissant pour les formules de multilatéralisme éloignées de l'ONU sont simples. Lassitude devant la perpétuation des crises que les Nations Unies en 3/4 de siècle n'ont pu régler, depuis le conflit israélo-arabe jusqu'au drame syrien, mais surtout prise de conscience par les opinions publiques, accélérée par la mondialisation, de la gravité des problèmes de fond qui affectent non pas telle ou telle région, mais l'ensemble de notre planète. Dégradation de l'environnement, disparité de développement, inégalités généralisées. Face à ces derniers problèmes qui s'imposent à l'actualité, les dirigeants veulent du neuf. Ils veulent redevenir maîtres du format de la discussion, avec une prédilection pour les enceintes restreintes, jugées sérieuses, responsables, genre G7 ou G20, groupes de contact divers sur l'Iran et la Libye, ou bien large forum ouvert à la société civile, style forum de la paix, maître du temps également, modulant à la guise des calendriers des sommets, tels ceux sur la Crimée, maître enfin du poids des conclusions, rarement contraignantes, plutôt incitatives. À l'Assemblée générale de l'ONU, on évoquera en quelques mots dubitatifs les crises confiées au Conseil de sécurité. On se concentrera en revanche sur ces vastes priorités qui seront traitées ailleurs, climat, développement durable, inégalité. Mais quel est l'effet de cette évolution au trébuchet de ces 2 critères de l'efficacité et de la transparence, l'autorité? La transparence. Le multilatéralisme, c'est l'échange à plusieurs, l'intérêt étant que le nombre des participants induit les témoignages, la confrontation de ceux-ci, et donc rapproche de la vérité, en fin de compte, du sérieux de la négociation. Quand le multilatéralisme dérive, comme 1000 exemples en donnent le spectacle, en une succession d'entretiens bilatéraux, où sont les témoins? Quel est le compte-rendu impartial de ce qui a été débattu, agréé? Nul doute à cet égard que le devoir d'information et de vérité est mieux respecté dans les organes de l'ONU. Nul doute également que si l'ONU rend les armes dans le domaine économique et n'est plus en mesure de concurrencer G7, G20 ou conférences thématiques, le devoir de transparence devrait conduire les responsables de ces nouvelles enceintes à venir sur place, New York ou Genève, pour informer sérieusement, longuement, les 2 tiers d'une humanité laissée à la porte de ces clubs successifs. L'autorité. De quelle autorité disposent les conclusions émises par les nouveaux collèges multilatéraux? Nous sommes ici dans le brouillard. On parle de signatures, d'engagements, de pactes à respecter, alors que la réalité est floue, flottante. On ne signe pas une résolution de l'ONU, pas plus qu'une déclaration de l'OTAN ou du G7. On opine. On opine souvent par consensus, quitte à ignorer la pancarte agitée furieusement par un réfractaire. À ce brouillard s'oppose la franche clarté des dispositions de la charte. Les textes issus de l'Assemblée générale sont des recommandations. Libre à nous de les suivre, affaire de morale. Les textes issus du Conseil de sécurité sont des décisions. Et ces décisions, article 25 de la Charte, sont obligatoires. Mais cette obligation catégorique et dans le respect changerait la face du monde est ignorée. 2 raisons. La première est le laxisme de notre écriture, texte vague, imprécis, timide, ôtant à la décision tout son pouvoir coercitif. Privé de mordant, le Conseil se rapproche de l'Assemblée. La seconde raison est la malheureuse tendance actuelle à charger à ras-bord un texte de toutes les marottes qui passent par le cerveau d'un diplomate. La résolution de 142 avait 5 paragraphes. Les textes actuels font plusieurs plages. 49 paragraphes traitent de tout, dissuadent la lecture. Quelles leçons tirées, sinon qu'il faut reprendre au sérieux et la charte, et l'ONU, et soi-même. En un mot, écrire en pesant ces mots, en sachant, article 25, qu'ils peuvent contraindre. À l'épreuve de ces deux critères, transparence et autorité, on voit que le système des Nations Unies, quelles que soient des fausses ou critiques, devrait garder prééminence. Nous y disposons, il est vrai, d'un atout exceptionnel, le siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Certes, l'élargissement du Conseil est réclamé, logique et sans doute inéluctable. Mais il ne se fera pas à notre dépens. À New York, chacun le sait, France et Royaume-Uni paient leur privilège d'une activité inlassable à l'initiative des deux tiers des textes issus du Conseil. Mais l'important, c'est l'actualité. Et l'actualité, c'est cette spectaculaire distance prise par l'administration Trump avec des décennies d'interventionnisme et surtout de leadership. Ce dernier mot scandait les adresses des Bush père et fils, de Clinton, d'Obama. La nation indispensable, la ville éclairée au sommet de la colline, l'exceptionnalité, la responsabilité morale de diriger, d'être le pivot du monde. Lisez les discours aux Nations Unies du président Trump. Aucune allusion au leadership. Fut-il benign ? Certes, on dira qu'il s'agit d'un fâcheux égoïste repli sur soi, mais qui niera qu'il s'agit aussi pour les autres d'un appel à exercer nos propres responsabilités. D'où l'ultime interrogation, saurons-nous saisir cette opportunité pour assumer calmement nos positions et apparaître comme un pôle parmi d'autres, mais qui n'impose pas, un pôle qui a une mémoire, un pôle qui a réfléchi, un pôle que l'on consulte, un pôle qui peut agir, bref, et pour finir, un pôle de référence.